célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse, le 3 mai, les réseaux des radios associatives et télévisions des proximités, RATEPROCA, en collaboration avec Internews, organise ce Presse Café, un débat sur la problématique de l'exercice de la liberté de la presse et les droits du public à l'information dans une zone des conflits armés sanglants, rôle des médias et autorités locales. Pour parler de ce thème, nous recevons dans cette émission Baba Isaac Kalonji. Baba Isaac Kalonji est journaliste indépendant. Il est doyen dans la profession. Baba Isaac, bonjour.
Bonjour.
Nous recevons également Isaac Lambert Mbouikana. Il est coordonnateur des LOMEC, Observatoire des médias congolais, Kasai Oriental. Isaac Lambert Mbouikana, bonjour.
Bonjour.
Et dans, ici même, nous recevons Guilain Banza Kamwela, coordonnateur provincial du CESA, Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
À ses côtés, Clément Tidibi, chef des divisions provinciales des communications et médias. Bonjour. Voilà les panélistes avec lesquels nous allons parler durant 60 minutes. Mais avant de nous plonger dans les vifs de ce débat, je voudrais vous présenter les tableaux tels que peints par différents organismes sur la prestation de journalistes en République démocratique du Congo. Dans les derniers classements mondial de la liberté de la presse publié par Reporters sans frontières pour 2016, la RDC occupe la 154e place sur 180 pays du monde considérés comme prédateurs de la liberté de la presse. À titre illustratif, alors que GED avait répertorié fin 2016 87 cas d'attaques directes et diverses contre la presse, au moins 69 autres cas d'atteinte à la liberté de la presse ont été enregistrés depuis le début de l'année 2017, contre 41 cas enregistrés à la même période, les 3 mai 2016, soit une augmentation des 28 cas, et qui représente donc une dégradation de près des 60% de la situation de la liberté de la presse dans un contexte général marqué par une profonde crise politique et sécuritaire. Depuis le début de cette année, les différentes atteintes à la liberté de la presse se répartissent de la manière suivante. 20 cas de journalistes menacés ou agressés, au moins 26 cas de censure ou de fermeture de médias, un journaliste tué en Mbujimayi dans des circonstances qui n'ont pas encore été élucidées, dans le Kasaï central où un média a été incendié par des miliciens, au moins 3 autres journalistes ont été contraints d'abandonner leur domicile pour fuir les violences et les menaces qu'ils ont reçues aussi bien de la part des miliciens que des forces de sécurité qui s'affrontent. Voilà, madame, monsieur, comment se présentent les tableaux. Mais aussi, avant de poursuivre, je vous propose cet élément qui nous présente comment la situation de la liberté des presses se présente aussi au Kasaï oriental.
La presse est l'un des fondements d'une société véritablement démocratique. En temps réel, les efforts à fournir pour obtenir cette liberté sont considérables. Cependant, quand vient le temps de conflits, et surtout des conflits armés, cette liberté est toujours restreinte. C'est le cas en République démocratique du Congo, principalement dans l'espace Kasaï, une zone en conflit depuis bientôt une année. Rappel des faits, en août 2016, voit le jour dans le Kasaï central, au centre de la RDC, une milice attribuée au chef coutumier Kamwina Nsapu. Ce dernier sera tué le 12 août dans un affrontement entre sa milice et les forces loyales. Et vite, le mouvement va connaître une rapide expansion dans la région du Grand Kasaï. On dénombre des milliers de morts et des déplacés. Plusieurs fosses communes ont été découvertes par l'ONU et le président de la RDC, Joseph Kabila, a déclaré le Kasaï une zone opérationnelle pour mettre fin à l'insécurité causée par cette milice. Alors que les miliciens s'approchaient du territoire de Ngandonjika, l'embarras s'emparait des journalistes, comme l'indique Charles Mukendi, rédacteur en chef à la radio d'Itunga.
On a senti à un moment que même dans le territoire, il y avait une frayeur. On pensait qu'imminemment, ils allaient être là. Alors, faudrait-il dire des choses qui vont peut-être mécontenter ceux-là qui vont venir? C'était difficile. Et à un moment, on se demande, est-ce qu'il faut continuer à informer parce que le public a le droit à l'information. Et moi, j'ai le devoir d'informer. faudrait-il que j'informe sur tout ce que je sais? Et ma sécurité est en jeu en ce moment-là. C'était devenu un problème délicat. Fallait-il me protéger moi-même ou informer? C'était délicat.
Ainsi, aborder l'actualité liée à la milice devenait très délicat. Tout le monde se réserve. Flori Lukusa est journaliste à la radio-télévision communautaire de Ngandonjika, RTCN.
Tout ce qui s'est passé autour de la présumée milice de Kamuinansapu n'a pas mis à l'aise la presse au niveau de la province de Lomami. À titre exemplatif, nos confrères de Mwenedi, tout chaque fois qu'il y avait des problèmes là-bas, quand on essayait d'appeler nos confrères de ce côté-là, ils se réservaient beaucoup de nous donner réellement ce qui s'est passé. C'est comme s'ils pesaient sous le joug des menaces des autorités telles que, quand nous allons entendre que c'est tel de Mwenedi qui a livré telle information aux confrères de Ngandonjika, il serait une brebis galeuse à abattre.
Entre la peur d'une part des poursuites judiciaires que déclencheraient les autorités locales et les représailles de la milice, d'autre part, le journaliste était étouffé.
Il est difficile de dire des choses qu'il est mécontent. Parce que vous savez, en pareille circonstance, on nous accuse souvent de démobiliser les forces qui sont engagées dans la lutte. Donc, est-ce que vous informez que telle part, il y a eu autant, par exemple, des militaires, des policiers qui ont été tués par les miliciens? En ce moment-là, on risque facilement de dire que vous êtes en train de démobiliser les troupes qui sont au fond. Alors, entre les deux, on était pris en sandwich, en quelque sorte, et la liberté d'informer était vraiment mise à mal.
Liberté de presse mise à mal à Lomami. La vie est partagée par les professionnels de médias de cette province. Flori Lukusa déplore par ailleurs le flou qui caractérise ce sujet chaud de l'actualité au pays.
La situation autour de la milice, de la présumée milice Kamuinansapu, n'a pas vraiment permis aux journalistes de Lomami de travailler en toute liberté. Et puis, c'est un arbre qui cache toute une forêt parce que tout ce qui s'est passé jusque-là, on ne connaît même pas un bilan réel de la part de nos autorités sur le nombre de morts à Mweneditu, le nombre de décès à Lwilu, d'autres territoires. Kamiji de l'autre côté, tout ce qui s'est passé quand on parlait de la milice de Kamuinansapu, c'est pour vous dire que la liberté de la presse, même quand on a voulu en parler le 3 mai, vraiment, elle n'est pas vraiment réelle au niveau de...
Bruno Saka, journaliste à la radio Lucema, l'une des dernières nées dans l'espace médiatique de la Lomami, malgré l'hésitation de ses responsables à se prononcer sur la question, il décide de s'exprimer.
On a vu certains journalistes qui ont été menacés, donc c'est là, on n'a pas pu donner toutes les précisions possibles sur l'affaire Kamuinansapu. Et on estime que la liberté de presse a été entravée, étouffée pendant tout ce temps que les opérateurs ou les éléments opéraient sur terrain, que ce soit du côté des combattants de Kamuinansapu ou du côté des forces de sécurité. On n'a pas pu donner les informations nécessaires, c'est que j'estime qu'on n'a pas été libre de nous exprimer.
Selon le classement 2017 de Reporters sans frontières, une organisation internationale de défense des droits des journalistes, la RDC est en recul de 2 places par rapport à l'année 2016.
Ndongika, Chimbubuntamboué, Radio du Tonga pour le Raté Proka.
Vous avez certainement suivi Adiani Chimbombo depuis le territoire de Ngandonjika, c'est dans la province de Lomami. Nous allons ici vous rappeler, vous qui êtes ici, que vous avez la possibilité d'intervenir quand vous voulez, mais de façon ordonnée. Baba Isaac Kalonji, vous avez suivi ce reportage. Quel est le tableau que vous présentez de la situation de la liberté de la presse dans la région du Kasaï?
Manuel, tableau sombre. D'abord, il y a à boire et à manger. Il y a beaucoup à faire. Il y a un combat à mener. Et aussi, la prise de conscience collective des professionnels des médias qui, à part leur Bible catéchisme, la profession a été codifiée. Mais dans le métier, il y a des facteurs endogènes qui font que la liberté ne soit pas respectée, parce que d'abord, beaucoup de maisons de presse n'ont pas de contrat de travail, les journalistes travaillent à la va-comme je te pousse. Il faut comprendre que non seulement il faut que les journalistes prennent conscience de leur métier, mais il faut aussi que les créateurs des médias pensent à respecter les textes légaux, notamment le code du travail. Donc, à part ces conditions, il y a les conditions de la prise de conscience du professionnel des médias qui doit comprendre que le message qu'il donne s'appelle une information qui est un fait social qui doit répondre absolument aux 5 questions préoccupantes. Qui fait quoi, où, quand, comment, pourquoi.
Voilà.
Donc, c'est un métier codifié. Il faut que nous nous mettions ensemble d'accord sur le code éthique et déontologique. régit et des textes légaux qui régissent la profession.
Bien, merci Baba Isaac. Isaac Lambert Mbouikana, votre point de vue par rapport à la situation de la liberté de la presse aujourd'hui.
Mon point de vue sur cette situation est un constat de ce que font les journalistes. Les journalistes travaillent à l'intérieur de deux limites. La première limite est celle leur imposée par leur code et leur déontologie. Et la deuxième limite est celle que vient leur imposer les lois des milieux où ils exercent. Mais en dehors de ces deux limites, les journalistes font également face à l'exercice de leur profession, à des humeurs, à des conflits d'intérêts et à l'autocratie de certaines autorités, ce qui fait qu'ils n'exercent pas comme il faut leur métier en toute liberté, dans leur droit d'informer, parce que le public qui a le droit d'être informé ne reçoit pas la vraie information.
Bien, merci Isaac Lambert Mbouikana. Guilain Banzakamwela, vous êtes coordonnateur du CESAC. Vous êtes au Casse Oriental et vous voyez comment les journalistes prestent. Quel est l'état des lieux ou les tableaux que vous pouvez présenter de la liberté de la presse?
Et à notre avis, lorsque nous consultons notre centre de monitoring des médias dans la province du Casse Oriental, il nous revient que les journalistes ont un souci d'informer, étant donné que le droit à l'information est garanti par la constitution de notre pays. C'est un souci, mais le souci à lui seul ne suffit pas. Il y a un problème, je ne veux pas répéter ce que les collègues de l'OMEC ont dit tout à l'heure, mais je dis que le journaliste doit faire son travail de manière objective tout en n'étant pas partisan. Je crois que nous insistons beaucoup là-dessus. J'ai suivi le reportage tout à l'heure des confrères de l'OMAMI. Je comprends que de part et d'autre, parce que j'ai eu à traiter cette question avec les autorités de la ville de Mouneditou et même de la province autour des informations concernant la milice présumée de Kamuina Nsapu. Le journaliste, il connaît son ABC, il connaît ce qu'il doit faire, mais il est souvent emporté par le goût du sensationnel. Et c'est là que ça va très mal. Lorsqu'on dit que le journaliste doit informer, cela ne veut pas dire que le journaliste vient avec n'importe quoi pour livrer au grand public, à ses auditeurs, à ses lecteurs ou à ses téléspectateurs.
Bien, merci. Je reviens à vous tout à l'heure, Clément Titibi, chef de division des communications et médias. Quel est l'état des lieux de la liberté des presses dans votre province?
Merci, monsieur le journaliste. Je crois que je venais de suivre un reportage. On a parlé de l'interdiction des émissions de débat politique. Nous, on s'occupe de la réglementation au regard de lois qui régissent les médias. Il y a des préalables qui doivent être suivis des normes, et qu'à l'ouverture, nous avons constaté que certains responsables de médias, même certains professionnels de médias, ne tiennent pas compte du propriétaire de la ligne éditoriale du propriétaire de radio. Donc, au départ, on a biaisé. Quand on a biaisé, maintenant, les journalistes ne peuvent pas aller au-delà. Parce que il lui a dit, voilà, moi, je veux faire ça. Quelqu'un qui est profane à la profession dit, ok, on démarre, sans tenir compte de sa ligne éditoriale, donc de son statut de départ, de ce qu'il veut, mais vous vous engagez directement à être son directeur ou son journaliste, sans tenir compte de ce que vous êtes. vous ne réclamez pas, je ne peux pas parler, vous ne réclamez pas le contrat, vous ne vous entendez pas sur certaines choses, voilà. Vous êtes dans la profession. Maintenant, à ce moment-là, quand lui dira, ne faites pas ça, faites ça, vous allez dire qu'on a des limites. Mais les limites, il faut les prévenir à l'avance. Cette liberté doit au départ, au préalable. Vous devez comprendre que le média dans lequel vous œuvrez, à quelle ligne éditoriale, de quoi vous allez parler.
Voilà.
Et vous devez montrer que vous êtes expert dans la profession.
Nous allons arriver à ça. D'accord. Mais je voudrais que vous puissiez revenir un tout petit peu avec beaucoup de clarté par rapport à la situation du journaliste. Est-ce que le journaliste est libre? Est-ce qu'il a libre accès aux sources d'information?
Je crois que je peux dire oui ou non, mais je sais une chose, il y a des limites. Parce que les journalistes lui-même, la plupart des journalistes que nous avons eu à dialoguer avec eux, ils nous présentent qu'il y a toujours d'autres journalistes qui s'interposent quant aux sources d'information. C'est-à-dire, au lieu qu'ils puissent dire aux autres, allons, ils disent non, moi je prends d'abord et je vous donne. Vous voyez, à ce moment-là, l'autre ne va plus donner textuellement ce qu'il y a eu et il doit se réserver. Ce sont des limites aussi.
Voilà. Merci bien, monsieur Clément Tidibi. Baba Isaac Kalonji, je reviens à vous maintenant. Nous allons parler de l'accès de journalistes aux sources d'information. Avec la situation des conflits, dans les zones des conflits bien entendu, armés et sanglants, est-ce que le journaliste a accès facile aux sources d'information?
Emmanuel, je détiens une information selon laquelle la radio Okapi, par exemple, lorsque il y a un son de cloche concernant une information donnée au public, la radio Okapi se bat pour trouver un deuxième son de cloche. Et par conséquent, si la source, la deuxième source, refuse de livrer son information, la radio Okapi prend soin de dire que faute d'un deuxième son de cloche, nous avons publié l'information unilatéralement selon ce qui nous a été livré. Mais que nos médias fassent la même chose, que nos médias professionnalisent le métier de manière telle que si vous n'avez pas eu un deuxième son de cloche, vous donnez l'information, mais vous faites remarquer que l'autre partie n'a pas donné sa vision. C'est la première démarche. Deuxième démarche, c'est que qu'est dit la déontologie par rapport à une source qui refuse de livrer. Et revenons au code. Donc, ne faites pas n'importe quoi parce que vous vous dites professionnel. Non. Faites ce que le code vous demande, c'est votre évangile. Faites aussi en sorte que l'information ne provoque pas ce qu'on appelle au Rwanda mille collines. Parce que quand vous livrez l'information concernant une autorité ou un groupe de personnes, sachez que ce groupe a droit aussi à la réplique. Quand le groupe ne réplique pas, ce n'est pas pour autant que vous devez vous taire. Vous devez dire que le groupe concerné n'a pas voulu livrer l'information. Donc vous avez été privé d'une source.
Bien, merci. Isaac Lambert Mbouikana, est-ce que ces journalistes qui ont accès aux sources d'information, parlons de la diffusion, est-ce qu'ils traitent et diffusent cette information librement?
Que je dise d'abord un mot sur l'accès. Allez-y. Aux sources d'information. Mmh. Si en temps de paix, il est difficile d'accéder à une information, parce que les informations de terrain, surtout en période de conflit, sont considérées comme secrètes. Déjà, autour de ces sources se trouve une sélection subjective de journalistes qui sont employés et qui font la promotion de ceux qui les emploient et qui les priment. Il est difficile qu'on puisse accéder facilement à cette source d'information. Mais une fois que le journaliste a accès à l'information, votre question est-ce qu'il la traite, il la diffuse de bonne manière, de manière professionnelle? Je peux dire que dans la profession aujourd'hui, il y a journalistes et journalistes. Quand on regarde dans les maisons de presse, qui est journaliste aujourd'hui, nous avons trop peu de chances de trouver des confrères qui répondent au profil du journaliste professionnel. Ce
quoi ce profil, Isaac Lambert-Mbuikana?
Donc, c'est quelqu'un qui connaît son métier, qui sait être responsable et qui traite l'information de manière objective et qui respecte l'éthique et la déontologie. Mais il y a des gens, des confrères, entre guillemets, qui n'ont jamais vu le code de déontologie des journalistes à la République démocratique du Congo.
Mais quand même qui détiennent des cartes de profession.
Tout à fait. Et ce sont ces abus qui rendent l'exercice de la profession difficile. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui ne connaît pas les règles du métier de respecter ces règles. C'est tout à fait impossible. C'est pour cela, à celui-là, il va traiter l'information, la diffuser de sa manière en dehors de toute déontologie.
Bien, merci. Alors, Monsieur Guilhem Banza, vous avez suivi Isaac Lambert-Mbuikana. Est-ce que vous pensez que le journaliste en Mbujimayi ou au Kasaï Oriental traite et diffuse librement à l'information?
Je crois qu'il n'y a pas un gendarme dans les rédactions. Je ne pense pas qu'un seul directeur de programme puisse me le dire. Ils sont seuls dans leur conférence de rédaction, ils décident de ce qu'ils doivent nous donner, nous, comme consommateurs. Et nous subissons. C'est la première chose. Traiter librement, parce qu'ils sont libres, ils sont dans leur rédaction, ils le font. Mais il faut signaler ici qu'il y a une sorte d'autocensure. Le journaliste lui-même pense que si je... Il y a une conséquence qui peut en découler. Lui-même, de lui-même, en tout cas. Et moi, je crois que là, je reviens à ce que le collègue Lambert disait tout à l'heure. Il y a un problème de responsabilité et de professionnalisme dans la profession. Il n'y a pas, je crois, que c'est une chanson que je n'aime pas trop, sur laquelle je n'aime pas trop revenir, qu'on dise qu'il y a des charpentiers, des maçons, des menuisiers. Très bien, mais ça fait la honte de la profession. Et lorsque vous voyez un journaliste qui ne sait même pas par où commencer, je fais le monitoring de tous les médias, et je suis un élément qui passe, un écho sonore, qui n'en est pas un. Les professionnels savent de quoi je parle. Un écho sonore qui n'en est pas un. Et on nous passe un écho sonore de bonjour, monsieur, nous vous souhaitons bienvenue. Ça, on nous passe comme écho sonore. C'est quoi ça? C'est un manque de professionnalisme. La pauvreté aidant, le journaliste n'a pas le temps de traiter cette information comme il se doit. Il n'a pas d'argent, il saute sur des occasions pour faire un bruit au lieu d'apporter l'information. D'où la nécessité de tous nos organes ici de revoir cette situation des journalistes dans notre province, de passer par un recensement, c'est l'UNPC, pour que nous puissions savoir qui fait quoi et qui est qui dans la profession. Sinon, nous allons de plus en plus dans un trou profond et la profession est en train d'être sacrifiée.
Voilà, avant de prendre le reportage d'Ali Boukassa, des radios Toutant et des Mouné Ditou, je voudrais que M. Clément Tidibi, qui est chef de division des communications, puisse dire un mot sur cette affaire des professionnalismes. C'est vous qui autorisez l'implantation des radios, des télévisions, et vous voyez ces radios naître et vous ne voulez pas savoir qui doit travailler dans ces radios. Et aujourd'hui, on parle de manque de professionnalisme, M. Clément.
Merci beaucoup. Je crois que à notre niveau, l'ouverture d'une radio, d'une entreprise de presse, c'est d'une déclaration au préalable contenue dans un formulaire où on nous donne tous les renseignements possibles, et que notre exigence est que les directeurs de programme, nous avons dit, doit être un professionnel de la communication, soit audiovisuel, de la communication de presse. Fort malheureusement, quand quelqu'un vient pour ouvrir sa radio, il s'amène avec un professionnel pour couverture. Vous croyez que c'est celui-là? Dès que vous avez déjà les dossiers, maintenant vous essayez de suivre pour s'adresser maintenant à la direction de programme. Vous voyez quelqu'un d'autre et quand vous lui demandez, est-ce que vous pouvez nous montrer votre papier attestant que vous êtes professionnel
de la communication audiovisuelle. Les journalistes disent, c'est-à-dire quoi? Vous allez comprendre. Moi, je dis, mais tiens, donc vous n'avez aucun papier qui prouve que vous êtes professionnel de l'audiovisuel. Ce sont des cas que nous avons remarqués, et quand nous faisons venir le propriétaire pour dire non, vous êtes tombé sur un mauvais, le premier que vous avez ramené était sur la voie.
Dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites quand vous trouvez que ce n'est pas le premier qui a été présenté, vous trouvez que c'est plutôt un autre? Vous, en tant qu'organe normatif, qu'est-ce que vous faites?
Nous rappelons à l'ordre l'initiateur de la radio et nous passons en revue. Nous avons fait des séances pédagogiques mixtes, CESAC, OMEC, UNPC et la division, pour voir cette matière. Mais il paraît toujours que ceux qui doivent relayer, n'est-ce pas, notre réglementation, ce sont les directeurs de programme.
Est-ce que, M. Clément, on ne peut pas dire ici que parce que vous ne parvenez pas jusqu'à la fin avec votre suivi, c'est vous qui autorisez l'entrée dans la profession des moutons noirs?
Non. Les journalistes sont gérés dans des entreprises de presse. C'est lui qui peut témoigner que celui-ci est journaliste. Ce n'est pas la division. Il y a toute une corporation. Il y a toujours des gens qui, quand vous utilisez les journalistes, vous êtes professionnels, directeurs de programme, vous devez suivre les journalistes de forme sur l'État. Ce n'est pas la division qui donne la qualité de journalisme.
Et par rapport aux responsables des médias?
Par rapport aux responsables, je voulais signaler. Il y a certains responsables qui ne sont pas du domaine, mais qui gèrent les radios.
Voilà. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Il y a déjà trois questions dans la salle. Jean-Esther Kaninda, Joseph Mundela et Pierre-Serge Doumba. Je vous donne la parole tout à l'heure. Mais je voudrais que nous puissions d'abord suivre la situation des journalistes dans la ville ferroviaire. Ali Boukassa, des radios tout tentées, nous décrit l'accès de la population à l'information.
Oui ou non, la population de Mouyéditou a accès à l'information? Des réponses à cette question divergent pour les uns.
D'après moi, oui, la population a l'accès à l'information.
À Mouyéditou, nous avons l'accès à l'information.
La population a l'accès à l'information parce qu'ils sont d'abord ils ont des radios.
Selon les autres, abondance des stations radio dirait aussi accès à l'information.
On peut accéder à travers la radio et la télévision. Quelqu'un qui a la télévision chez lui, il accède à l'information. Celui qui a la radio chez lui, il accède à l'information. Donc si quelqu'un n'a pas ça, on n'a pas l'information chez lui.
Dans cette logique, d'autres évoquent la liberté de presse. Allez en croire.
Ah, il faut que maintenant que la presse soit libre, parce que les informations que nous recevons, en moi-même, je vois que les journalistes ont peur de nous donner de vraies informations. Nous n'avons pas l'accès aux vraies informations.
La radio, la télévision, aujourd'hui, vous connaissez qu'il y a certaines chaînes à tendance qui peuvent vous donner une information au lieu de dire oui et dire non. Au lieu de dire non, ils vous parlent de oui. Oui, tout est compliqué.
Localement, les informations ne sont pas données. Il faut qu'on abandonne à les tracasser, c'est-à-dire qu'on laisse les journalistes faire réellement son travail dans toute liberté, dans toute indépendance.
Surtout la presse doit nous chercher les informations à donner à toute la population congolaise de Mouyéditou. Donne pas de vraies informations, ils ont peur de parler en haute voix. Surtout les radios communautaires ont peur de parler en franche vérité ce qui se passe sur le terrain. Il faut que la presse fasse son travail, persévérer dans leur travail.
Certains journalistes partagent cet avis.
Ce que nous déplorons, c'est tout simplement le non-accès à l'information. Les journalistes à Mouyéditou n'est pas bien considéré, nous décrions ça tout haut. Le journaliste à Mouyéditou n'a pas l'accès total à l'information. Et pour celui qui n'a pas l'accès à une information en ce 21e siècle, comprenez-en qu'il n'y a pas de liberté. Couper son peuple d'une information, eh bien c'est la tuer.
Toutefois, d'autres professionnels de médias nuancent la tendance. D'après eux, l'accès à l'information rime aussi avec la capacité des journalistes et la culture des populations. C'est ce qu'on croit et soutient également dans le camp des officiels. Néanmoins, le bourgmestre de Moussadi, Emmanuel Tshibangu Manyamanga, annonce la naissance de cette culture.
La culture est encore au début, on n'a pas encore cette culture-là ici. D'ailleurs, notre population par rapport à l'âge qu'a notre ville, ce n'est pas encore une culture qui loge dans les têtes de la population, non.
Ali Boukassa Kabambi, ABK, l'UCOM, pour votre radio.
Ali Boukassa, des radios tout tentées pour Raté Proka. Vous le savez, peut-être depuis la fin de l'année passée, il y a eu une mesure d'interdiction des diffusions, des émissions, des débats politiques dans les médias du Caucase oriental. Et cette mesure a été levée partiellement au début de cette année. Je vous prie ici de suivre l'élément que nous propose la réalisation.
Bienvenue à ce magazine Presse Café. C'est depuis le 15 décembre 2016 que le gouvernement du Kasaï oriental, Alphonse Ngoï Kassongi, a annoncé la mesure interdisant la diffusion des émissions des débats politiques dans les médias locaux. Selon lui, cette décision fait suite aux impératifs d'ordre sécuritaire. Le gouverneur Kassongi explique que l'inexpérience et l'amateurisme de certains animateurs des émissions des débats politiques est susceptible de compromettre la sécurité publique en cette période sensible. On risque de vivre des cas d'insurrection parce que tout simplement il y a des journalistes qui ne sont pas formés pour prendre le micro et animer des émissions si sensibles. Nous traversons une période sécuritairement chaude. Il a fait savoir que sa province sous constamment sous menace sécuritaire du phénomène Kamuinansapu, allusion faite à ce cycle de violence dans le Kasaï central et le Kasaï voisin, faisant des centaines de morts. Cette mesure a été condamnée par plusieurs associations de journalistes et ONG de droits de l'homme du Kasaï oriental qui ont demandé la levée immédiate de cette mesure. Certains professionnels de médias estiment que cette décision viole l'article 24 de la Constitution et risque de constituer un frein à l'apport des politiques dans la sensibilisation pour l'enrôlement des électeurs. L'article 24 de la Constitution consacre le droit à l'information de la population à travers des émissions par la radio, la télévision, la presse écrite.
Voilà, vous avez suivi cet élément. Alors, je voudrais commencer par Guilain Banza Kamwela, coordonnateur du CESAC. Monsieur Guilain, est-ce que cette mesure n'a pas contribué à la restriction de la liberté de la presse au Kasaï oriental?
Je dirais que oui, et un petit non. Je m'explique. La mesure qui a été prise était une conséquence d'une série de contacts avec les directeurs de programme, les animateurs des émissions à débat politique. Je crois que les gens qui ont décrié la mesure, qui n'est pas venue de nous, je ne défends pas ça, ce n'est pas le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication qui a pris la décision, mais c'est l'autorité politico-administrative. Et je disais que dans nos entretiens, on a même organisé des séances conjointes avec la division des médias pour appeler les directeurs de programme à un peu plus de responsabilités. On a vu les ONG de défense des droits de l'homme et même les médias et prendre les dessus dans l'affaire et critiquer pour dire qu'il y a eu violation de ceci et de cela. Nous disons que lorsqu'on doit remettre les choses en ordre, il faut s'arrêter un moment, il faut s'arrêter et réfléchir. Parce que ce qui se disait dans nos médias n'était plus de l'information. Mais qu'est-ce que la population appelle information en fin de compte? Est-ce que nous sommes là pour donner ce que nous pensons être vrai ou bien la vérité elle-même? On invite des acteurs politiques, par exemple, qui viennent avec des invectives sur les antennes. Et vous voulez que ça passe normalement? Non, on doit s'arrêter. Il y a les lois qui régissent le secteur des médias en République démocratique du Congo. Et on doit s'y conformer. Les acteurs politiques qui viennent et l'animateur de l'émission, merci à Internews pour toutes ces séances de remise à niveau, de capacitation. Parce que sinon, c'est la dérive. Et l'animateur de l'émission ne s'est pas modéré, c'est lui le modérateur de l'émission, mais il s'est fait passer pour un étudiant par rapport aux invités. Et ça, nous ne pouvons pas accepter. C'est quoi ça? C'est de l'impréparation, n'est-ce pas, de l'émission, de la non-maîtrise du sujet à traiter par les professionnels des médias.
Oui, justement, M. Guilhem, vous, en tant qu'organe de régulation, vous avez plutôt laissé toute la latitude au gouvernement provincial de prendre des décisions à votre place. Quel a été votre apport dans cette histoire?
Laisser la latitude. Moi, je ne contrôle pas le gouvernement. Je suis un organe indépendant. Je ne dépends pas du gouvernement.
Quelle a été votre intervention?
Mon intervention, c'est que j'ai agi avant...
Sous les appels du gouvernement?
Non, mais le gouvernement fait son travail, moi j'ai fait le mien. J'ai dit ceci, que j'ai fait beaucoup de séances de travail à la coordination provinciale avec les directeurs de programme et les animateurs des émissions, voir les rédacteurs en chef pour leur dire, attention, voici la règle, n'allons pas en dehors de ceci. Mais quand la mesure est tombée, elle est tombée, c'est le gouvernement. Moi, je n'ai pas à redire à ce que le gouvernement a fait. Mais ce que je fais, c'est quoi? Je suis allé, on a rencontré le ministre des médias avec le chef de division à ma gauche. On a parlé avec lui, on a dit, voici la réalité des faits. Nous sommes dans une séance, dans une démarche pédagogique avec ces gens. Laissez-nous terminer la séance pédagogique et nous pensons que ça va aller. Et quand on a levé la mesure, est-ce qu'il y a eu même un seul directeur qui est venu demander comment la mesure a-t-elle été levée? Est-ce que c'était une démarche des directeurs de programme? Non. Mais quand nous, on rencontrait l'autorité pour lui faire voir, voici les exigences de la profession, c'était ça notre travail, nous sommes là pour protéger la profession aussi, n'est-ce pas?
Voilà, merci. Je vais prendre maintenant quelques questions dans la salle. Jean-Esther Kanida, vous étiez le premier à demander la parole.
Oui, c'est dit, Jean-Esther Kanida. J'ai une question, d'abord à l'endroit de M. Guylain Banza, coordonnateur du CESA. Dans sa première intervention, il a semblé dire que le journaliste congolais connaît son métier, connaît l'éthique, mais il est emporté par le sensationnel. Il a été tout de suite contredit par monsieur le coordonnateur de l'OMEC, qui lui a dit que ils ne connaissent même pas cette éthique et cette déontologie. Est-ce que le sensationnel est-il en opposition avec l'éthique et la déontologie du journaliste?
Joseph Mundela est ici. Vous avez la parole, monsieur.
Joseph Mundela, pour le compte du journal La Tempête des Tropiques. Je voulais intervenir à ce stade pour dire que à cet endroit, nous ne pouvons pas nous voiler la face. Nous avons difficile à accéder aux sources d'information dans notre province. Je me rappelle qu'en 1973, pendant qu'il y avait une période la plus difficile de l'histoire de notre pays, où il y avait une forte dictature, nous accédions facilement aux sources d'information. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous représentez, je suis en 2007, j'étais à Matadi, au Congo central.
Oui, soyez vraiment précis, clair et concis, s'il vous plaît.
Je vais y arriver. J'ai vu que les cabinets du gouverneur, pour autant que je n'étais pas de la province, ils m'ont empêché d'accéder pour voir le gouverneur. Et pour revenir ici chez nous, ça fait difficile pour arriver à accéder soit au niveau du gouvernorat, soit au niveau du ministère de l'information. Donc nous avons difficile à accéder aux sources d'information. C'est ce que je voulais.
Voilà. Bien, merci. Je voudrais d'abord donner la parole à M. Guylain parce que il y a une question qui lui est adressée. Il va répondre et puis nous allons revenir dans la salle.
Oui, je réponds à la question du confrère Jean-Esther. Il a relevé une sorte de contradiction, c'est ce que j'ai entendu entre mes propos et ceux du coordonnateur de l'OMEC. En fait, moi, j'assume ce que j'ai fait comme propos. Et est-ce que le sensationnel est-il à l'opposition avec l'éthique? Je crois que c'est ça la question. Moi, je crois que lorsqu'un journaliste cherche le sensationnel, s'il respectait les règles de jeu, il est dans le bon. Mais généralement, c'est quoi? Généralement, c'est qu'on dise, c'est telle radio qui a donné de l'information, même si cette information n'a pas été vérifiée. Parce que ne peut être livrée qu'une information qui a été effectivement vérifiée et rédigée dans le respect de l'écriture radiophonique pour vous qui êtes à la radio. Mais j'ai dit que lorsqu'on fait les sensationnels, je me plais aussi à donner souvent un petit exemple d'un journaliste d'une grande agence internationale qui, dans un pays, attendait l'atterrissage ou l'arrivée d'un président de la République en visite. C'est à l'OMEC. Et ce journaliste d'une grande agence internationale de presse
quand il a vu seulement apparaître l'avion, il a fait le papier pour envoyer à sa rédaction pour dire le président est arrivé, descend, accueilli par son homologue, fleuri par une jeune fille, ainsi de suite, alors que lui n'a vu que l'appareil qui amorçait l'atterrissage. Et alors, l'agence a lancé l'information à travers le monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu crash. Le président attendu est décédé dans ce crash. Là, pendant que l'agence avait déjà annoncé qu'il était descendu, fleuri, accueilli par son homologue. Dites-moi les sensationnels, ça vous a bénéficié à quoi? Voilà. Et il a été licencié immédiatement et rappelé dans son pays. Voilà, c'est un exemple que je donne. Il y en a tant d'autres.
Voilà, Isaac Lambert Mbuikana, vous avez un mot à dire là-dessus. Et puis, il y a l'affirmation de Joseph Mundela Wadiessa, qui, pour lui, ils n'ont pas accès aux sources d'informations.
Je voudrais revenir un peu sur la question du confrère Jean-Esther Kanina. Il n'y a pas eu de contradiction entre ce que le coordonnateur du CESAC et le coordonnateur de l'OMEC ont dit. Moi, je parlais de ceux qui ne sont pas journalistes professionnels, tandis que lui a insisté sur le travail des journalistes professionnels.
Il n'y a pas de contradiction. Approchez le micro, s'il vous plaît.
Mais quant au sensationnel, vous demandiez. Si ça énerve les règles déontologiques, la réponse est oui. Parce que le sensationnel ne permet pas le recoupement. Le recoupement, selon les principales exigences déontologiques, exige que les journalistes s'efforcent, avant de rendre publique une information, d'en avoir vérifié la fiabilité en cherchant systématiquement une seconde source permettant de confirmer ou d'infirmer celle dont il dispose déjà. Les sensationnels énervent également une autre exigence déontologique, la polyphonie, qui exige que des journalistes puissent donner la parole à l'ensemble des points de vue qui s'affrontent. Les sensationnels, c'est pour qu'on dise, il a parlé le premier, mais qu'est-ce qu'il a dit le premier?
Bien, merci Isaac Lambert Mbuikana. Il y a Maggie Masanga, Pierre-Serge Toumba d'abord, et puis Maggie Masanga ensuite. Pierre-Serge Toumba, vous avez la parole.
Oui, notre question, nous l'adressons à M. le chef des divisions provinciales de la communication Kassa-Orientale. M. le chef des divisions, en intervenant, il a dénoncé le fait qu'il y a des médias au Kassa-Orientale qui sont dirigés par des personnes incompétentes. Mais le chef de division lui-même, en tant que responsable du secteur, apparemment il ne fournit aucun effort, ou ses services ne fournissent aucun effort pour que ce média, dirigé aujourd'hui par des incompétents, des personnes qui ne valent pas la peine, puisse être dirigé par des personnes qui peuvent convenablement le faire. Ne trouve-t-il pas que c'est de sa propre faute, parce que jusqu'aujourd'hui, les médias continuent à être dirigés ainsi.
Merci.
La deuxième question.
Deuxième question, oui.
Toujours à M. le chef des divisions. Et il dit que les chaînes et les journalistes qui aujourd'hui sont victimes de la restriction de la liberté de presse sont celles qui ne respectent pas la ligne éditoriale. M. le chef des divisions, est-ce que tous les journalistes, tous les médias qui jusqu'aujourd'hui dans notre province sont victimes de cette situation, sont ceux ou celles qui n'ont pas dit respecter la ligne éditoriale? Et sinon, la ligne éditoriale est respectée tout de même quelque part.
Voilà. Alors là, monsieur le chef de division, vous allez répondre. Il va répondre avant de prendre une nouvelle question.
Je n'ai pas parlé d'incompétents. J'ai parlé de professionnels de la communication audiovisuelle. Les mots incompétents n'est pas sorti de ma bouche. Parce qu'il y a des journalistes, mais il y a des journalistes professionnels. Comme nous avons des catégories. Je crois que le deuxième volet de dire que j'ai dit certains médias, des directeurs qui changent d'un moment à l'autre, mais nous rappelons à l'ordre. Je crois que nous avons l'organe de régulation qui a dans ses attributions cette tâche. Mais au niveau de la réglementation, nous avons écrit et nous continuons à écrire et nous faisons toujours une copie à nos organes de régulation de télécommunication. Par rapport à certains médias, lignes éditoriales, je crois que c'est le travail que nous avons fait ensemble et que nous avons notifié, c'est qui respectait et ce qui ne respectait pas par rapport à l'interdiction des émissions à débat politique. Nous avons intervenu et nous avons mis les points sur les i et nous avons écrit. Donc notre rôle est celui-là de réglementer, et en cas que ça demande qu'il faut des sanctions, du coup on recourt aussi à nos organes de régulation qui ont la tâche de punir.
Voilà, merci. Magui Masanga, vous avez la parole pour votre question. Et puis André Rosier Kassonga-Zongola. Magui, oui.
Merci beaucoup, monsieur le modérateur, pour la parole. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs de ces cafés de presse, notamment le Rateprouka et Internews, parce que c'est important d'en parler. Ça fait longtemps qu'au Kassai Oriental, il n'y a pas eu vraiment un tel débat, mais alors qu'il y a des problèmes, un problème sérieux, parce que aujourd'hui, on ne peut pas se voiler la face. On doit vraiment affirmer que l'accès à des sources d'information aujourd'hui dans notre province n'est pas vraiment facile, et même la population n'a pas la vraie information quand il faut qu'elle ait cette information-là. Alors les causes sont nombreuses. D'abord, la modicité des salaires de journalistes. Et puis aussi, il y a un fait. La presse du Kassai Oriental doit comprendre que nous avons une mission noble. Nous devons mettre nos sentiments de côté pour pouvoir faire le travail comme il se doit. Nous devons cesser cette presse de dire deux fois, parce que nous l'entendons, un journaliste qui dit « moi je suis de telle tendance », ça fait la honte de notre presse. S'il vous plaît, je suis brève, ça fait la honte de la presse. On peut arrêter avec ces histoires de dire que nous sommes de telle tendance ou de telle tendance. Quand il faut que nous soyons solidaires, nous-mêmes la presse, il faut le faire. La solidarité diminue peu à peu au Kassai Oriental en ce qui concerne le journaliste. Nous devons être d'abord solidaires nous-mêmes. Autre chose, les autorités doivent comprendre qu'on ne peut pas tout le temps vraiment jeter le fleur à ceux qui sont en train de faire. Ils doivent comprendre que quand il faut jeter des fleurs, on le fait, mais quand ici, il faut aussi être critiqué, il faut l'admettre. On ne peut pas tout le temps être applaudi, il faut accepter des critiques. Tout cela font que le journaliste se trouve dans des conditions telles que si je ne dis pas ça, peut-être que je serai interpellé demain. Alors moi, ce n'était pas une question, c'était une contribution. Voilà. De tous les côtés, autorités, journalistes, essayons de comprendre que la presse a un travail à faire et admettre qu'il y ait des critiques, mais le journaliste aussi doit savoir comment transmettre une information. Merci. Pour ne pas léser le décompte. Merci. Voilà un peu ce que je voulais dire.
Merci Magui Masanga. André Rosier, votre question, nous devons prendre quelques questions avant d'atterrir. Oui.
D'accord, merci. Ce n'est pas une question. J'ai dû aussi à m'étonner comme ça, comme au prétoire. Merci, je salue les efforts fournis par les organisateurs pour la tenue de cet atelier. Je salue également la présence de cette honorable assistance. Je me posais la question si je pouvais me taire dans cet atelier si on a évoqué le cas de la suspension des émissions des débats politiques, et aussi ce qui a été dit par le chef des divisions. J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt le coordonnateur du CESAC, que je salue. Il n'a pas porté les gants pour intervenir, ce qu'il a dit. Mais ici, nous avons, en notre qualité de représentants des chroniqueurs politiques au Kassai Oriental, en aucun cas, nous ne reconnaissons pas avoir rencontré ou bien être invité par le CESAC pour échanger sur des modalités d'exécution ou bien de direction ou d'animation de ces émissions. Monsieur le coordonnateur est là, nous pouvons même fouiller dans les archives du CESAC au niveau du Kassai Oriental. S'il y a même un seul PV qui atteste que cette rencontre avait eu lieu, nous pouvons nous incliner devant ces PV.
Je fais également un constat à charge de la division de communication et médias. Moi, je constate un déficit d'autonomie. Parce que nous sommes dans un environnement où même le Kangrila effraie le pouvoir. Alors, dès qu'on trouve que cela est en train, ça ne va pas dans le sens, on n'est pas en train de caresser les chiens dans le sens de ce poil, là on doit appeler le gendarme qui est maintenant la division de communication et médias. Je m'en vais pour preuve. Le 16 décembre, la décision a été prise par le Conseil de sécurité. Si le Conseil de sécurité, aussi le gouvernement provincial, et pas le gouvernement provincial, plutôt le Conseil des ministres, qui n'est pas une institution, une rencontre ou bien une réunion comme ça. On prend la décision et pour salir ou bien saboter la théorie du parallélisme des formes, c'est la division de communication et médias qui lève cette mesure. Jusqu'alors, nous avons toujours cherché à savoir pourquoi la décision a été prise par le Conseil des ministres et levée par la division de communication et médias. Et la décision même, signée par la division de communication et médias, on cite le CESAC là-dedans. Alors moi aussi, j'avais trouvé que quelque part, le CESAC ne pouvait pas être cité dans ces... Dans cette décision-là pour lever la mesure.
Vous allez chuter.
Si je chute, je peux tomber, mais je vais atterrir. On parle de... Le chef de division a parlé de l'immaturisme, des déficits professionnels dans le chef de certains animateurs, bien sûr, mais cela a été dit sur une grande chaîne de la planète, la RFI. Ça nous avait beaucoup blessé. Et aujourd'hui, on a remué les couteaux dans les plaies. Les animateurs des émissions, comme nous l'avons dit, dans les discours d'investiture, aujourd'hui, parce que Maggie Massanga a dit que la responsabilité est partagée, tout à fait, la responsabilité est partagée. Quand le CESAC est intervenu, quand la division de communication et médias est intervenue, la responsabilité est toujours sur les épaules des animateurs des émissions de débats politiques, particulièrement, généralement, les responsables. Mais dans le discours d'investiture du gouverneur, du nouveau gouvernement provincial du Kassai-Oriental, quelque part, ceux qui détiennent cela, le gouverneur avait dit, mon gouvernement fera tout pour organiser des séances, des mises à niveau, la collaboration avec la presse, des structures, des médias, et pour essayer un peu de redynamiser la presse au niveau du Kassai-Oriental pour défendre l'image des marques de la province. Mais d'ici le mois de juin, une année, quel type d'activité? Quelle activité, même une seule activité qui a été organisée pour redynamiser cette presse au niveau du Kassai Oriental? J'ai dit.
Merci André Rosier. Monsieur Louis Mouloumansanza, vous avez la parole. Ça sera peut-être l'avant-dernière question.
Merci beaucoup, monsieur Emmanuel. Moi, j'aimerais que nous puissions, en fait, j'aimerais me rallier au thème, me rapprocher du thème. La problématique de l'exercice de la liberté de presse et les droits du public à l'information dans une zone de conflit armé sans clan, rôle de médias et autorité locale. Mais ici, nous sommes en train de papoter autour du néant. Parce que le thème est là, bien affiché. Et lorsque j'analyse ce thème, je vois qu'il y a deux éléments qui s'ajoutent au troisième. Le premier élément, c'est l'exercice de la liberté de presse. Et le deuxième, c'est les droits du public à l'information. Et le troisième élément, nous sommes dans une zone de conflit armé et sanglant. Et rôle des médias et autorités. Mais nous sommes en train de tourner autour du pot comme s'il n'y avait pas le terme autour duquel nous devons tourner et analyser. Voilà ce que moi je voulais dire. Lorsque nous parlons de la liberté, ou bien de l'exercice de cette liberté de presse et les droits du public à l'information, là, il y a à boire et à vomir. Pourquoi? Nos médias que nous sommes en train de suivre, selon qu'on est de telle ou telle tendance, on se réserve de dire telle ou telle chose. Et là, l'information n'est pas presque donnée. Mmh. Et en plus de cela, lorsque nous suivons nos différentes presses, on parle beaucoup plus des informations qui viennent des radios étrangères. Par exemple, ici même, on diffuse une information, on dit selon la radio France Inter, selon la radio Okapi. Et pourtant, nous sommes ici en Mujimaï. Donc,
fuite de responsabilité. On ne veut pas s'engager. Et aussi, je pense que je ne devrais pas être redondant. On n'a pas encore eu des informations exactes sur les conflits armés localement ici. Peut-être que les informations que nous avons ramassées qui viennent d'ailleurs, parce que France a parlé, parce que Okapi a parlé, parce que c'est pas moi, Vatican a parlé, mais ici présentement, on ne connaît pas vraiment ce qui est à la base, pourquoi il y a ces conflits-là, pourquoi qui est tenté de tisonner. Voilà des informations auxquelles nous nous attendons.
Merci. Merci beaucoup. Bien, merci. Je reviens d'abord de ce côté avec les panélistes. Baba Isaac Kalonji, vous avez suivi les uns et les autres par rapport à cette situation de la liberté des presses, des stations de radio qui ont été interdites de diffuser les émissions des débats politiques. Et M. Louis Moulouman-Sanza vient de relever notre point, c'est notamment l'information sur les conflits, s'il faut faire allusion aux conflits attribués aux milices, plutôt à la milice Kamouenansapou, la population estime qu'elle n'a pas été suffisamment informée sur cette situation. Est-ce que vous estimez que les journalistes ont eu du mal à diffuser ces informations?
Emmanuel, je tiens à vous préciser que la responsabilité est totalement partagée. Entre l'autorité qui donne l'autorisation de création des médias, audiovisuels et presse écrite, partagée entre le public qui suit l'information et enfin les journalistes qui se disent professionnels qui sont entourés de moutons noirs.
Voilà.
La situation est perplexe. Il faut un combat interne d'abord pour normaliser les rapports entre la base et le sommet et puis faire en sorte que la profession soit exercée. Merci. Absolument par les professionnels.
Merci. Isaac Lambert Mbouikana, à l'Observatoire des médias congolais, les journalistes n'ont pas informé suffisamment, la population n'a pas eu accès à l'information.
Je crois que en partie, oui. Et pourquoi? Parce que le journaliste n'est pas allé sur le terrain des conflits. Les autorités politico-sécuritaires qui s'y rendent, nous avons déjà décrié la sélection subjective des journalistes qui les accompagnent. Et quand ils reviennent, d'émission, les journalistes ne disent que ce que leur dictent les autorités qui nous ont accompagnés. Regardez même le forcing qui s'est fait autour des comptes rendus des réunions des ministres. Ce n'est pas tous les organes qui ont accès aux comptes rendus des conseils des ministres. On sélectionne et on monte les éléments qui doivent passer dans les chaînes. Comment voulez-vous que dans ces conditions-là, les journalistes puissent avoir l'accès à la vraie information, à toute l'information en vue d'informer le public? C'est ça toute la problématique.
Voilà. Merci bien, M. Isaac Lambert Mbouikana. M. Guilin, vous avez suivi. S'il faut que vous puissiez revenir sur l'intervention de André Rosier Kasonga, qui estime que la levée de la mesure a été donc l'œuvre de la division provinciale des communications et aussi du CESAC. Est-ce que aujourd'hui vous pouvez rassurer que les stations qui sont encore interdites de diffuser les émissions de débat politiques peuvent avoir l'espoir de diffuser plus tard?
Non, si ce n'est pas conforme à leur cahier des charges, non, ils n'ont pas d'espoir. Vous avez dit que vous avez prêché le Seigneur Jésus-Christ comme l'unique sauveur.
D'abord, ils ont commencé par diffuser alors que l'organe régulateur et la division des communications, tout c'était là.
En fait, oui, c'est ce que j'ai dit, que nos confrères journalistes essayent d'aller un peu au-delà de ce qu'ils sont. Ils ont estimé que prêcher l'évangile était la moindre chose que animer une émission de débat politique, par exemple. Ils n'ont pas d'espoir. Eux, c'est la religion, c'est Jésus-Christ a dit, la Bible a dit, point barre. Ils n'ont pas d'espoir de revenir sur le débat politique. Ça, c'est clôturé. Il y a un fait que je voudrais relever ici. Ouais. Je crois que nous n'avons pas, au niveau de ce sac, des sentiments orduriers
par rapport aux journalistes, étant donné que nous-mêmes, nous sommes journalistes, je crois. Et lorsque nous voyons ce qui se passe et que nous disons qu'il y a eu des séances pédagogiques, je ne veux pas entrer dans les débats d'André Rosier tout à l'heure, de dire on n'a jamais été dans une séance, je crois que c'est pas ici, c'est lieu de faire ce débat-là. Je vais bien le faire avec lui, à un endroit qu'il connaît. Mais je sais une chose,
à un endroit qu'il connaît,
c'est que le journaliste a été suffisamment informé et appelé à notre bureau. On a eu autant de séances et il y a autant de PV dans notre bureau.
Voilà.
C'est pas ici le temps de dire quoi que ce soit. Mais la décision d'élever la mesure qui frappait les radios, on dit c'est le CESAC et la division. J'ai dit non, prenez les signataires de la lettre d'élever des mesures, n'est-ce pas? Mais André regrette le fait que il y a eu, on a cité le CESAC là-dedans. Il n'a pas dit que c'est le CESAC et la division. Il a dit, il regrettait pourquoi le CESAC a été cité dans cette décision.
Justement.
Je crois que le chef de division qui a signé ce document a eu une longue séance de travail avec moi pendant qu'il devait mettre en musique son texte. Et il connaît ce que je lui ai dit. Je m'y étais opposé catégoriquement. J'ai dit, ne signez pas ce document parce que ce n'est pas vous qui avez signé le premier. Et j'ai dit ceci, que il peut se référer au CESAC, c'est par rapport à toutes les séances qu'on a eues avec lui comme titeur de médias en province, n'est-ce pas, comme technicien. On a eu assez de séances avec le chef de division. Et dans ces séances, on a eu à parler de ce que nous faisons dans notre centre de monitoring. Il a même eu accès à nos documents du centre de monitoring. Il a vu ce que nous avons pris comme, nous relevé comme fait délictuel au centre de monitoring. Et il s'est référé, il a pris en référence cela, pour documenter, n'est-ce pas, son document.
Merci.
Je crois que ça c'est un éclairage important à donner au conflit.
Merci, monsieur. Alors, monsieur Clément Tidibi, vous avez suivi. Il y a des médias qui y ont commencé par diffuser les émissions de débat. Vous êtes là, vous n'avez pas frappé, vous les avez laissés progresser. Aujourd'hui, vous les frappez et pour lever la mesure, vous estimez que ces médias n'ont pas suivi, n'ont pas respecté leur cahier des charges.
Merci beaucoup.
Ce n'est pas la faute de la division.
Merci beaucoup. Je crois que si... on peut compter combien de lettres de rappel tu pouvais en amener ici avec des accusés de réception. Si aujourd'hui vous écrivez à un directeur, à l'ordre, ne faites pas ça, demain, il y a un autre directeur. On est obligé d'écrire. Et la démarche d'ouverture ou bien de lever la mesure, c'est nous qui sommes partis voir les gouvernements qui avaient pris la mesure. Non, nous n'avons pas été saisis au préalable. Voilà comment se présente la situation. On nous a demandé des rapports techniques par rapport à ce que eux croyaient que c'est ça qui a fait que nous sommes dans une période d'insécurité et tout ça. Les motifs avancés étaient normaux, étaient bien,
oui.
Mais nous avons essayé d'étudier dossier par dossier, cas par cas, par rapport à ce que le gouvernement avait trouvé. Et nous avons donné notre expertise au gouvernement pour dire
merci.
Non, nous devons faire ça et ça.
Merci.
C'est alors que nous avons dit, nous ne voulons pas que ça reste comme ça.
Merci.
Nous levons la mesure.
Merci bien, M. Clément Tidibi. Et dans une minute, Baba Isaac Alongi, nous allons faire le dernier tour des tables. Quelles sont les pistes de solutions que vous proposez pour que la liberté de la presse, l'accès aux sources d'information et que le droit de la population aux informations soit respecté?
J'invite la division provinciale à faire respecter les textes légaux régissant la profession, notamment la loi 81 portant statut du journaliste et l'introduction de la déclaration sollicitant la création des médias.
Voilà.
Ça, c'est pour la division. Pour la profession, c'est revenir tous au code déontologique et d'éthique professionnelle et se former, se recycler. Internews l'a fait. Je crois que désormais nous serons à
défendre la profession. Voilà. Isaac Lambert Mouikana.
Les pistes de solution, je dirais simplement
il faudra de notre part, en tant que professionnels médias, travailler dans le respect de nos règles et de notre éthique. Il faudra aux autorités rendre accessible l'information pour respecter les articles 11 et 13 de la loi de l'exercice de la profession de médias en République démocratique du Congo.
Voilà. Merci, Monsieur Guilain Banza, les pistes de solutions pour que la liberté de la presse puisse régner au Kasaï.
Je crois qu'il y a un problème de sources d'information qu'on doit libérer. Il y a beaucoup de murs pour accéder à des sources d'information officielles. Qu'on lève ces murs-là. L'autorité publique, c'est une autorité pour tout le monde. Et chaque journaliste a droit de la rencontrer et d'avoir des informations voulues. Le professionnalisme, la responsabilité, la prise de conscience des journalistes. Et j'ai dit, pour finir, éviter le journalisme alimentaire et le journalisme chantre.
Voilà.
Voilà.
Merci. Monsieur Clément Tidibi, votre mot de la fin et proposer les pistes de solution.
Responsabilisation des directeurs de programme dans leurs prestations par rapport à leur qualité de professionnel. Respect des prescrits légaux et réglementaires en matière de la production. Respect du statut déclaré au préalable. Je crois que ça peut nous arranger pour que nous puissions accéder à la liberté de la presse libre.
Merci, monsieur, chers panélistes et madame, monsieur, vous qui avez participé et suivi cette émission, nous vous disons sincèrement merci. Nous avons parlé de la problématique de l'exercice de la liberté de presse et les droits du public à l'information dans une zone de conflit armé et sanglant, rôle des médias et autorités locales. Raté Proca, réseau des radios associatives et télévisions de proximité Internews, vous ont proposé ce café de presse. Merci à vous tous de l'avoir suivi.